Alors, comment on peut mener cette activité avec vos élèves? Alors, on n'est pas encore sur la comparaison, mais c'est une première activité que vous pouvez faire avec eux. Alors, vous avez un premier outil qui s'appelle la biographie langagière. Alors, la biographie langagière, vous allez la trouver, là, c'est un document qui est issu d'un petit fascicule qui s'appelle « Mon premier portfolio des langues ». C'est Didier... International. Didier qui fait ça, l'éditeur Didier. Donc là, on va demander à l'enfant de noter les langues qu'il entend en famille, qu'il a entendu à la télé, qu'il a entendu en voyageant, qu'il a entendu dans plusieurs contextes. On lui demande de noter ces langues-là dans les petites zones qui sont réservées à ça. Et chaque fois qu'il va rencontrer une nouvelle langue, eh bien, il va rajouter cette langue à sa biographie langagière. D'accord ? C'est pas quelque chose de fixe. Une biographie langagière, c'est quelque chose qui évolue. Si cet été, vous partez 2 mois au Japon, d'accord ? Pour l'instant, vous n'avez pas du tout de compétences en japonais. On se doute bien qu'au bout de 2 mois passés au Japon, vous saurez dire des petites choses en japonais. Je ne dis pas que vous saurez lire la grande littérature, hein, mais vous saurez dire forcément quelque chose. Donc, en revenant... On pourrait imaginer que vos enfants ajoutent dans leur biographie langagière le japonais. Je sais pas. Autre façon de faire, ça s'appelle la fleur des langues. Alors, on distribue aux enfants des pétales de couleurs. Donc là, ils ont choisi la couleur bleue pour les langues que l'on parle, la couleur rouge pour les langues que l'on comprend, la couleur jaune pour les langues que l'on a déjà entendues. Et on n'a pas dissocié là les langues que l'on comprend à l'oral, les langues que l'on comprend à l'écrit, et les langues que l'on produit à l'écrit, et les langues que l'on produit à l'oral. D'accord ? Là, c'est celles que l'on parle, celles que l'on comprend, et les langues que l'on a déjà entendues. Donc chaque enfant va prendre le nombre de pétales dont il a besoin, et il va écrire sur chaque pétale le nom de la langue. Alors l'intérêt là, c'est qu'on va valoriser les compétences plurilingues de nos élèves, mais les enfants monolingues vont quand même avoir au moins un pétale rouge, un pétale bleu, le français, et plusieurs pétales jaunes. Ils ont tous entendu une autre langue que le français. Ils ont entendu l'anglais, ils ont peut-être entendu l'espagnol, dans la cour de récréation, ils ont peut-être entendu l'arabe. Donc tous les enfants vont avoir une fleur qui sera composée de toute façon de plusieurs pétales. Il y a vraiment... Peut-être qu'on peut les aider à en prendre conscience du fait qu'ils ont entendu d'autres langues, mais c'est sûr qu'ils en ont déjà entendu, ne serait-ce que dans la cour de récréation, dans le quartier, à la télé, voilà.
Chansons.
Oui, des chansons, bien sûr. Alors, je vais vous faire vivre une petite expérience. Alors, je vais commencer... par une expérience que l'on ne donnerait pas à vivre aux élèves. Hein. Donc, je précise bien que c'est pour, simplement pour vous, adultes. Pour vous montrer comment la comparaison entre les langues peut servir à l'étude de la langue. Donc, l'étude de la langue, c'est quoi? C'est j'observe la langue et je déduis des régularités de fonctionnement de cette langue-là. D'accord? Dans le programme de 2016, on vous invite à travailler à partir de corpus. C'est quelque chose d'assez nouveau. Donc j'espère que ce matin, j'éclairerai peut-être quelques zones possibles. Alors, j'ai pris, c'est une petite expérience complètement artificielle que je vous fais vivre, puisque la langue, pour être sûr que personne n'avait de compétences dans cette langue-là, ce n'est pas une langue qui existe. C'est une langue complètement fictive qui est inventée de toutes parts pour l'expérimentation. Donc, dans le premier tableau, vous avez 3 phrases dans cette langue fictive. 2 sont traduites en français. Enfin, 2 ont leur équivalent en français. Dans le deuxième tableau, vous avez 2 phrases écrites dans cette langue fictive et 3 énoncés en français. Votre travail, ça va être d'essayer de déduire comment, enfin, ce que signifie Amu Atura Kikusi, et de traduire dans cette langue fictive la phrase « Il voit les bateaux ». Alors, je vous laisse le temps que vous voulez. Vous pouvez travailler tout seul ou à deux, écrire, pas écrire, c'est comme vous voulez. Il faut que vous vous débrouillez pour remplir, en gros, le tableau. Vous dites « Je vois un enfant ». Tout le monde est d'accord ?
Oui.
Les ou des enfants.
Et bien alors, quels sont, sur quoi vous vous basez pour dire que Amourat, il vous dit, c'est je vois un enfant.
On le retrouve, il vous dit, on le retrouve, il voit des bateaux. Mais il au pluriel une fois ou cinq fois,
c'est le même cas, mot. Le cas, c'est la marque du pluriel.
Le cas, c'est la marque du pluriel. Donc,
on a...
Oui, mais il y a ic et ac.
Oui, mais alors, parce que pour les noms, il doit y avoir des ou les.
Oui, mais pour les noms, ça change peut-être.
Non, ou alors c'est parce que les enfants, quand c'est à I, c'est parce que les enfants, c'est un sujet, et quand c'est à A, les enfants, c'est un COD.
Peut-être.
Alors donc, Amou, Atoura, Ibouzi, c'est je vois un enfant, je vois les enfants ou je vois des enfants. Je vois des enfants.
Alors, c'est au pluriel, mais on peut mettre les ou des.
C'est au pluriel.
C'est pas les enfants, ça c'est sûr.
Comment ?
C'est pas les enfants, sinon ils auraient mis.
Après, on ne peut pas traduire exactement les mots.
Oui, peut-être que les mots ne sont pas à la même place en français.
C'est pour ça que moi j'ai. Déjà, ils mettent le verbe à la fin.
Ah, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, le verbe est à la fin.
Ma question suivante, c'était quelle règle de grammaire vous pouvez dégager à partir de ce corpus ? Le verbe est à la fin. D'accord. Quelle est la structure de cette langue alors ?
Sujet au début.
Sujet au début.
Et au milieu, ben.
On a quoi alors ? On a l'objet.
Oui.
D'accord. Donc c'est une structure, c'est une langue avec une structure sujet, objet, verbe. Je suis d'accord avec vous. Donc la première phrase c'est ouais. Je vois des enfants.
Ouais.
Alors pardon, du coup, est-ce que vous avez dû sûrement beaucoup plus plancher que nous. Aturik, aturak, pourquoi le A et le I ?
Alors,
on va
d'accord.
Lady.
Je pense, ouais. En fait,
des pops,
c'est
quand même,
j'y
proche. Je pensais que c'était.
Voilà, la place. Ouais, mais
non, non, la place, c'est bien ça, c'est bien sujet, objet, verbe.
Non, mais le fait que la nature du mot enfant n'est pas la même dans les.
Ah, le fait que ce soit un sujet ou un COD.
Ça pourrait expliquer le I ou le A. En latin, c'est bien ça.
Oui. Oui, c'est ça, effectivement. Oui. Oui, parce que le cas, c'est la marque du pluriel. Et c'est comme si en fait c'était décliné, c'est comme si c'était une langue casuelle. Quand c'est un sujet, c'est I, c'est ça.
Voilà.
C'était ça,
ça. C'est ça.
Par contre, savoir si c'est les ou des.
Mais là, par contre, je ne suis pas certaine que dans cette langue fictive, il y ait possibilité de distinguer les ou des, par exemple. Ah, c'est pas toujours possible. Je vais vous expliquer après d'autres choses pour que vous puissiez prendre conscience de la pluralité des langues. Donc si je prends le système de cette langue fictive, je vois que le pluriel se marque par la lettre K, une pomme noix, des pommes noix. Il au singulier, inda, il au pluriel, indak. Mais que par contre, le verbe, la forme verbale, ne change pas. Igouzi, c'est à la fois voix troisième personne du singulier et voix troisième personne du pluriel. Les noms donc marquent ont une flexion de nombre, hein, mais les verbes ne sont pas conjugués. Voilà, c'est ce qu'on pourrait ressortir. Hein, ce sont les règles que vous avez déduites.